Bonsoir Gaspard Koenig.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, on vous connaît dans cette émission puisque vous êtes souvent intervenu, même à titre de chroniqueur, vous avez débattu. Nous vous recevons aujourd'hui avec joie et avec un peu de retard car vous publiez en cette rentrée « La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle ». La question de l'intelligence artificielle, du grand changement technologique que nous vivons, vous la connaissez bien, vous travaillez dessus depuis plusieurs années, vous êtes aussi le fondateur du think tank Génération Libre. Le projet de ce livre, d'où vient-il? Vous dites avoir eu envie de l'écrire en réponse, ou en tout cas pour poursuivre la réflexion ou essayer de s'opposer à celle de Yuval Harari, penseur, écrivain israélien. Qu'est-ce que cet homme dit d'intelligence artificielle que le philosophe que vous êtes voulait penser ou continuer à penser ?
Absolument. C'est la question qu'il pose à la fin de son livre Homo Deus, qui reste sur cette question, sur cette interrogation, et qui dit au fond, maintenant que les neurosciences ont prouvé que nous n'avions plus de libre arbitre, et maintenant que les technologies d'intelligence artificielle permettent quelque part de mettre en pratique cette conclusion académique et d'orienter les comportements de manière extrêmement fine, de connaître les gens mieux qu'eux-mêmes, de leur fournir des informations auxquelles ils n'auraient jamais eu accès avec leur petit cerveau, eh bien, nous allons avoir une tendance tout à fait naturelle à déléguer notre capacité de choix à la machine. Et à force de faire cela, nous allons perdre ce qui était quand même le socle de nos sociétés, globalement, nos sociétés libérales, à savoir l'autonomie du jugement. Et c'est toute une partie de notre univers qui s'en trouve chamboulée, parce que reste-t-il du droit de vote? Que reste-t-il de l'homo economicus? Que reste-t-il de la responsabilité pénale quand c'est la machine qui a pris la décision et que nous lui avons bien volontiers délégué? Que reste-t-il de nous-mêmes aussi? Que reste-t-il de notre singularité? Que reste-t-il de nos neurones? Alors bien sûr, c'est pousser un peu la logique de l'intelligence artificielle à l'extrême, puisqu'elle n'a pas encore envahi entièrement tous les domaines de notre existence. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est la tendance, et surtout ce qui est intéressant, c'est de dégager, un peu comme Tocqueville a été dégagé le principe de la démocratie qui était l'égalité, eh bien le principe de l'intelligence artificielle qui est effectivement au fond l'hétéronomie ou la fin du jugement autonome ou la fin du libre-arbitre. Et évidemment pour quelqu'un de libéral comme moi qui croit à l'individu, et plutôt d'ailleurs technophile de nature, alors là c'est tout d'un coup un grand conflit intérieur, parce que certes ces nouvelles technologies c'est formidable, c'est le marché, c'est l'innovation, c'est la mondialisation, et en même temps est-ce qu'elles ne sont pas en train de saper le fondement même au fond de trois siècles de libéralisme? Et c'est vrai que ce livre est écrit à la première personne parce que j'ai beaucoup voyagé pour le faire.
Vous êtes un peu Adam Smith, vous allez voir, autant vous dialoguer avec les auteurs que vous lisez, les auteurs qui écrivent aujourd'hui, qu'avec les acteurs de cette fameuse révolution.
En tout cas, c'est ma méthode depuis 4 ou 5 ans, c'est d'aller beaucoup sur le terrain et de parler non pas seulement aux intellectuels, mais aux gens qui font, aux investisseurs, aux entrepreneurs, aux chercheurs. Et si vous voulez, ça, c'est très utile parce que vous pouvez par exemple avoir de divaguer en chambre en lisant Bostrom sur la super intelligence qui va transformer l'univers en paquet de trombones. Mais quand vous êtes sur le terrain et que vous parlez à des computer scientists, à des informaticiens, en quelques heures, vous avez compris que c'était pas du tout le sujet et que on était très très loin de ce genre de divagation. Donc ça vous remet les pieds sur terre et quelque part, ça vous enlève un certain nombre d'angoisses.
On peut les citer, les angoisses, disons, qui sont communément partagées par le grand public sur la question de l'intelligence artificielle, la fin du travail. Ça, c'est des questions que vous évacuez relativement rapidement, alors que certains spécialistes, finalement, de l'intelligence artificielle, on a chroniqué ici le livre du chinois Kai Fu Lee, que vous connaissez, qui lui, par contre, prédit la fin du travail. Et il voit d'ailleurs une occasion magnifique de se recentrer sur l'émotion et notre être profond.
Mais alors ça, j'y crois pas du tout à cette idée que voilà, ce qui reste à l'homme, c'est l'empathie, la créativité, l'émotion, et que les machines feront le travail ennuyeux. Parce que au fond, chacun voit la disparition du travail de l'autre. C'est-à-dire que vous demandez à Kai Fu Lee, mais vous, en tant qu'investisseur, est-ce que vous allez être remplacé par une machine? Ah ben non, vous voyez, c'est trop compliqué. En fait, ce qui se passe, c'est que d'abord, les gens ont du mal à envisager la complexité du métier d'à côté. Et cette complexité, elle est liée à quelque chose de très fondamental, et que, alors là, pour le coup, m'a fait réaliser Yann LeCun, ce bon chercheur en intelligence artificielle, prix Turing, et qui d'ailleurs le redit dans un livre qu'il a publié la semaine dernière, qui est que l'intelligence artificielle n'a structurellement, pas par hasard, pas parce que les techniques sont pas assez développées, n'a structurellement pas de sens commun. C'est-à-dire qu'elle est capable de vous fournir beaucoup de résultats extrêmement précis, mais qu'il va y avoir 2% de résultats qui sont complètement aberrants et qui sont des erreurs que l'homme n'aurait jamais pu faire parce qu'elle n'a pas de représentation complète du monde. Et ça, c'est structurel parce que elle n'a pas de renseignements complets sur l'univers dans lequel elle se trouve. Elle fonctionne de manière sectorisée. Et elle n'a pas non plus de valeur. Et ça, c'est lié au fait qu'elle n'a pas de corps. La manière dont on peut décrire la non-fin du travail, c'est que les métiers qui seront remplacés sont les métiers qui ne font pas appel au sens commun. Il y en a assez peu. Même quand vous êtes serveur dans un restaurant, vous avez besoin d'énormément de sens commun pour juger de l'attitude du client. Donc c'est pour cela que j'étais assez détendu sur
ces questions-là. Une des notions que vous essayez de creuser un petit peu dans ce livre, c'est la notion de nudge. Cette question de Libarbrit, au fond, elle s'incarne dans cette question du nudge. De quoi s'agit-il ?
Alors, le nudge, c'est cette expression qui a été largement popularisée par l'économie comportementale et qui veut dire en anglais pousser du coude, c'est-à-dire donner une incitation, orienter dans un certain sens, mettre dans un sillon de manière subtile, de manière non autoritaire, mais de manière quand même extrêmement efficace. Et il est vrai que il y a aujourd'hui un espèce de consensus académique aux États-Unis, dans la psychologie, dans les neurosciences, dans l'économie comportementale, qui consiste à dire que nous sommes, et à juste titre, sur la base d'expérimentations très scientifiques, que nous sommes pleins de biais cognitifs, que donc nous ne prenons pas les décisions les plus rationnelles pour nous-mêmes, et que face à cela, eh bien, à la fois la politique publique peut nous inciter à faire les meilleurs choix, et l'industrie de l'IA, et l'industrialisation des méthodes d'intelligence artificielle s'engouffre complètement dans ce chemin. Là, on est entré tellement finement dans la compréhension de ce qu'est un individu, de ce dont il a besoin et de ce dont il a réellement envie, au-delà même de ses désirs explicites, c'est-à-dire de son comportement au-delà de ce qu'il formule, que ça pose un problème plus général et plus colossal, en fait, qui est la place de l'individu dans le groupe.
Évidemment, alors ça, c'est dans la dernière partie de votre livre. On revient à Yuval Harari. Vous dialoguez avec Spinoza, vous interrogez les questions de déterminisme. Yuval Harari vous dit, par exemple, moi, la neuroscience et l'IA auraient peut-être pu me permettre de me rendre compte que j'étais homosexuel beaucoup plus jeune. J'aurais gagné du temps dans ma vie. Je me serais, d'une certaine manière, libéré de tout un tas d'angoisses. À un moment donné, vous revenez au fondement même philosophique de cette question du libre arbitre en essayant de distinguer la question du déterminisme de la question de la délibération. Et vous dites, et avec vous plusieurs scientifiques, vous dites que finalement, le fait qu'on délibère, le fait qu'on ait un libre arbitre n'est pas si important du point de vue du résultat. Le temps que nous prenons pour délibérer change, modifie nos circuits neuronaux, et c'est ce temps de délibération plus que les choix que nous faisons qui constitue notre personnalité. Et donc, finalement, en s'en affranchissant totalement ou en les déléguant à l'IA, nous nous vidons véritablement de ce qui fait de nous un individu.
C'est très bien dit, c'est exactement ça. C'est vrai que j'ai essayé de mêler, du coup, dans ce livre, de la métaphysique, du journalisme et de la tech, et que sur le plan du libre-arbitre, je suis d'accord que le libre-arbitre, comme une sorte de fiat qui interromprait le cours de la nature, n'est plus tellement justifié, et que les neurosciences retracent, cartographient nos circuits de décision, que nous prenons des décisions avant même d'en être conscients, qu'il faut accepter les résultats de la science de ce point de vue-là. En revanche, ce qui reste et qui constitue la responsabilité, c'est moins le libre arbitre que l'exercice intérieur de la délibération, qui effectivement change la structure des circuits neuronaux et nous permet de constituer une personnalité complexe. Et donc, je vais reprendre l'exemple un peu provocateur d'Harari qui dit j'aurais gagné du temps si j'avais appris tout de suite que j'étais homosexuel et je me serais évité beaucoup de souffrance.
Et l'IA aurait peut-être pu le voir dans la manière dont je regarde une photo d'homme.
Exactement. Et c'est pas étonnant qu'il dise ça aurait évité de la souffrance, parce que lui, au fond, son but ultime en tant que bouddhiste et que méditant, c'est de diminuer le niveau de souffrance dans le monde. Mais moi, mon point, c'est de dire c'est précisément cette souffrance dans la recherche amoureuse qui nous constitue en tant que personnalité, que singularité. Et donc, il faut garder cette possibilité de nous définir nous-mêmes, non pas pour le résultat, peut-être effectivement sous-optimal, mais pour le processus.
Et alors, du coup, on en vient à vos conclusions de philosophe et à la fois de libéral. Vous l'avez dit, vous êtes technophile. Et finalement, c'est un jeune homme qui s'appelle Harry Clore, qui, d'une certaine manière, vous fournit un outil qui vous plaît. C'est ce que vous appelez la prime directive. De quoi parle-t-on ? Prime directive, comment est-ce qu'on le dit à l'américaine ?
Personnage de la Silicon Valley, qui est partout, qui fait du cinéma, qui a 2 PhD en biologie et en chimie. Et dit, au fond, ce qui est important, c'est de permettre aux gens d'utiliser ces systèmes d'IA, mais selon leurs propres paramètres, selon les critères qu'ils ont eux-mêmes choisis. Alors lui, il appelait ça la Prime Directive. Et la question qui se pose ensuite, c'est comment est-ce que on en vient à donner à l'individu une forme de maîtrise sur un système d'IA en disant, moi, je veux bien être orienté sur tel choix, mais pas sur tel autre et dans telles conditions. Et donc, inscrire ces paramètres que l'IA devra respecter. Bah, c'est évidemment pas en modifiant les algorithmes tout là-haut dans le cloud. C'est davantage en contrôlant le flux de données sortant, puisque c'est ça qui permet à l'IA de nous manipuler, entre guillemets, c'est les données que nous lui fournissons. Et c'est donc de constituer, d'abord d'instaurer un droit de propriété sur les données personnelles qui fait que ces données, non seulement nous les maîtrisons, mais elles nous appartiennent et nous avons dessus tout ce que confère le droit de propriété, fructus, abusus, usus.
Ce qui, aujourd'hui, n'est pas le cas, puisque les données que nous donnons finalement à ces grandes entreprises, qu'on appelle les GAFA, mais ça va bien au-delà, appartiennent à ces entreprises aujourd'hui.
Oui, et c'est d'ailleurs le thème de la propriété des données est devenu un thème de la campagne des primaires démocrates américaines avec un jeune candidat qui estime qu'il faut donner aux individus des ownership rights sur leur data. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement contemporain des deux côtés de l'Atlantique. Évidemment, les Chinois, ça les concerne moins. Et donc, le fait d'avoir ce droit de propriété permettrait effectivement d'abord, comme vous y faisiez allusion, de changer un peu les rapports de force économiques, puisque nous pourrions retirer un pourcentage du moins de la valeur que nous fournissons avec la matière première que sont nos données, et donc remettre la chaîne de valeur économique sur ses pieds. Mais au-delà de la question économique, moi c'est une question plus fondamentale de libre arbitre, c'est-à-dire que nous pourrions plus ou moins fermer notre portefeuille de données personnelles en fonction des fins qui sont poursuivies par les différentes plateformes, en fonction de nos propres désirs, en fonction de nos préférences explicites, y compris si elles sont sous-optimales pour le groupe, et de sorte que nous reprendrions le contrôle en fixant des paramètres en amont.
Vous évacuez la question économique, mais en réalité, nous sommes dans un monde où, pour certains, aujourd'hui, et déjà c'est le cas, l'IA et la question de la tech ont des véritables conséquences économiques à l'échelle du monde. Devenir propriétaire de ces données, c'est aussi, d'une certaine manière, être esclave de la valeur qu'elles produisent.
Ça dépend. Aujourd'hui, d'abord, on est esclave tout court, puisque c'est un peu comme la paysannerie qui s'est peu à peu émancipée au cours du Moyen-Âge, quand Louis-Georges Duby, en fait, ça nous dresse le paysage actuel.
C'est-à-dire grand historien médiéviste.
Qui explique l'émergence du droit de propriété du 12e au 18e siècle, qui fait que les paysans ont repris le pouvoir en faisant que leurs terres deviennent aliénables, en pouvant la transmettre en héritage, en pouvant vendre librement les productions sur les marchés, etc. Et aujourd'hui, c'est un peu le même sujet. C'est-à-dire, nous sommes dans une forme de féodalisme numérique, nous donnons tout gratuitement en échange de services gratuits et monopolistiques, et reprendre la propriété sur les datas, c'est permettre de les valoriser ou non, c'est-à-dire c'est permettre soit, si on décide d'être parfaitement transparent et qu'on abandonne tout à Facebook, au moins d'en récupérer une partie, et c'est tout à fait normal, ça donnerait ça ne changerait pas la situation actuelle, mais au moins ça permettrait de rémunérer ceux qui participent et qui en fait font l'effort et produisent le travail sur lequel cette industrie s'appuie. Mais ça permettrait aussi, surtout, je trouve, de fermer un certain nombre, parce que le droit de propriété vous donne la possibilité d'être dans le marché ou de ne pas être dans le marché. Donc vous pourriez dire, ben moi je souhaite accéder à Facebook, mais je l'utilise comme service, mais je ne veux absolument pas que mes données soient utilisées pour n'importe quelle fin publicitaire, je prends un exemple extrême, et ben à ce moment-là je paye le prix de ce service, même si c'est une poussière de centimes. Et ainsi se créerait toute une économie du micro-paiement, comme dit Jaron Lanier, qui est un des penseurs qui m'a le plus inspiré sur ce sujet en particulier, qui, encore une fois, permettrait de créer un circuit économique qui nous permet d'utiliser l'IA, de valoriser l'IA, d'avoir des industries d'IA, et il nous en faut en Europe, mais qui, en même temps, donnerait beaucoup plus de maîtrise à l'individu et permettrait à l'individu de faire ses propres arbitrages entre confort et vie privée sans demander au régulateur de le faire à sa place.
Merci beaucoup Gaspard Koenig. Je rappelle que donc ce livre s'intitule « La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle ». C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup.
Merci à vous.